Matthieu chapitre 26, verset 39. Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Bonjour à tous frères et sœurs, bonjour et bon sabbat. Puisse le Seigneur vous et nous bénir dans cette heure de méditation de la parole de Dieu. C'est ma prière que nous puissions ressortir convaincus et encouragés à faire le bien et non le mal. Dans cette méditation d'aujourd'hui, j'aimerais que nous cherchions et que nous obtenions une idée vision de la croix. Et la raison pour laquelle j'ai à cœur que nous concentrions sur cela et que nous cherchions cela, c'est que nous avons besoin d'obtenir une vision de la croix afin de pouvoir obtenir la force de la prendre pour nous-mêmes et de la porter. Afin de pouvoir pour nous-mêmes prendre la croix et la porter nous-mêmes, il nous faut d'abord et premièrement obtenir une vision de la croix. Et pour cela, sans plus tarder, j'aimerais que nous nous tournions ensemble vers les paroles de Matthieu chapitre 20. Matthieu chapitre 20 et versets 17 et 19. Où il est écrit, verset 17, « Et Jésus, montant à Jérusalem, prit à part sur le chemin ses 12 disciples et leur dit, « Nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes, et ils le condamneront à la mort, et ils le livreront aux gentils pour être moqués et fouettés et crucifiés. Mais il ressuscitera le troisième jour. » Et alors que Jésus disait cela à ses disciples et cherchait à les préparer au renoncement, en leur donnant une vision de la croix, la réponse ou ce qui vient à lui en suivant montre quelle est généralement la réponse naturelle de notre cœur aux visions de la croix que Jésus cherche à nous donner. Au verset 20, « Alors la mère des fils de Zébédée, de Jacques et de Jean, s'approcha de lui avec ses fils et se prosterna pour lui demander quelque chose. Et il lui dit, « Que veux-tu ? » Elle lui dit, « Ordonne que mes deux fils qui sont ici soient assis, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, dans ton royaume. » Donc Jésus disait, « Voilà, je vais être condamné. Ils vont fouetter et crucifier le Fils de l'homme. » Mais maintenant, Jacques et Jean, avec sa mère, ils viennent et disent, « Seigneur, il faut qu'on soit les premiers dans ton royaume. » Voilà comment nous, frères et sœurs, aussi, nous répondrons si nous ne marchons pas dans l'esprit aux visions de la croix. Et plutôt encore, dans Matthieu chapitre 16, verset 21, nous voyons cela d'une manière plus ample encore et plus profonde vis-à-vis de ces visions que Jésus cherchait à donner et par lesquelles il cherchait à inspirer ses disciples pour les épreuves qui les attendaient dans le proche futur. Dans Matthieu chapitre 16 et verset 21, nous lisons « Dès lors, Jésus commença, c'est à ce moment-là qu'il commença, nous venons de lire au chapitre 20, verset 17, qu'il avait continué, mais il avait commencé ici, dans Matthieu chapitre 16, verset 21. « Dès lors, Jésus commença a déclaré à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il y souffrit beaucoup de la part des sénateurs et des principaux sacrificateurs et des scribes et qu'il y fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc Jésus ici leur donnait encore une fois, ou plutôt premièrement, cette vision, cette anticipation ou cette vision anticipée de la croix. Et comment, quelle est la réponse qu'il reçut de son disciple? Quelle est la réponse que le disciple de Jésus fit à Jésus en entendant et en se voyant présenter cette vision de la croix? Verset 22, Matthieu chapitre 16, verset 22. Alors Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et à lui dire: à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera point. Pierre disait: non, 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 Seigneur, non, 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 pas de croix pour toi. Pourquoi? Parce qu'il disait: pas de croix pour moi. Vous voyez? Donc lorsque Pierre disait: non, Seigneur, ne me parle pas de ta croix, ce n'était pas parce qu'il voulait épargner à Jésus la croix, c'est parce qu'il voulait s'épargner à lui-même la croix de Jésus. Vous comprenez? Voilà pourquoi l'homme charnel n'aime pas la croix. C'est pas parce qu'il veut épargner à Christ les souffrances de l'agonie du calvaire. C'est parce qu'il veut s'épargner d'avoir apporté la croix de Jésus. La vraie croix. Pas celle qu'on met sur les rétroviseurs et sur le cou et sur les oreilles. Pas celle-là. La vraie croix. La croix du renoncement. Pierre disait: Seigneur, moi je porte toutes les croix sauf celle-là. Il disait, à Dieu ne plaise, Seigneur, ça ne t'arrivera point, ça, Seigneur. Ça ne t'arrivera point. Pierre ne voulait pas la croix. Qu'est-ce que ça veut dire? Pierre ne voulait pas renoncer à lui-même. Nous étudions cela, frères et sœurs, pour nous. Parce que Pierre est mort et dans la tombe et il dort dans le Seigneur en attendant la résurrection des justes. Simplement, nous sommes vivants et nous, encore aujourd'hui, nous sommes confrontés à la nature humaine qui fit écrier à Pierre ces paroles de refus de la croix et de la vision de la croix. Mais au verset 23, ici, nous voyons quelque chose de très intéressant parce que Jésus, voilà comment il répond à cette réponse de Pierre à la vision anticipée et l'avertissement de la croix. Verset 23. Mais Jésus, se tournant, dit à Pierre: arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celle des hommes. Tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celle des hommes. Donc, Jésus faisait comprendre ici à Pierre, comme nous le lisons dans l'esprit de prophétie, non pas qu'il disait cela pour offenser Pierre, mais pour montrer à Pierre qu'il était en train d'être victime des assauts de l'ennemi à travers cette expression qu'il avait faite à Jésus, que cela ne lui arriverait pas. Jésus a dit, c'est le diable qui est venu essayer de s'interposer entre moi et mon disciple en cherchant à dégoûter mon disciple de ma croix. Tes pensées, disait-il, ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Et donc cela signifie et cela implique que la croix représente les choses de Dieu qui sont une folie pour l'homme naturel. Comme on le lit dans 1 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2 et verset 11, où nous voyons ces choses de Dieu exprimées dans un différent contexte, mais pas pour autant séparé de ce que nous venons de lire à l'instant. Dans 1 Corinthiens chapitre 2 verset 11, je lis, « Car qui est-ce qui connaît ce qui est en l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? De même aussi, personne ne connaît ce qui est en Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Pour nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu pour connaître les choses qui nous ont été données de Dieu. Verset 14. Or, l'homme naturel ne comprend point les choses de l'esprit de Dieu, car elles lui semblent une folie et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on n'en juge. Que disait Jésus? Tes pensées, quand il parlait au diable, ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. Pierre pensait à lui-même. Pierre ne pensait pas aux choses de Dieu quand il dit cela. Pierre pensait aux choses des hommes. Pierre pensait à la préservation de lui-même. Préservation de sa réputation, préservation de sa fierté, préservation de sa suffisance. Mais les choses de Dieu donnaient une vision de la croix. Et ici, nous tournons vers les paroles de Matthieu chapitre 26. Matthieu chapitre 26, versets 36 à 39, où nous avons notre lecture biblique élargie. Où nous nous posons la question ici, où commence la croix? Est-ce que la croix commence avec les deux voleurs suspendus sur le bois? Ou est-ce que la croix débutait avant cela, pour Jésus, ce qui nous donnera un indice du genre d'expérience qui est contenu dans la croix que Jésus nous appelle à porter nous-mêmes. Matthieu chapitre 26, verset 36, je lis. Alors Jésus s'en alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané, et il dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'en irai là pour prier. » Et ayant pris avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, il commença à être triste et angoissé, et il leur dit, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Demeurez ici et veillez avec moi. » Et étant allé un peu plus avant, il se jeta le visage contre terre, priant et disant, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et nous avons ici une vision indiscutable du commencement de la croix. Et pour être encore plus correct et plus large, on peut voir ce début de la croix dans la tentation du désert que Jésus a rencontré juste après son baptême, ses 40 jours, et ensuite la tentation en trois parties de Jésus par le diable. Et la croix, nous la voyons aussi débuter dès l'incarnation, où Jésus traversa toute cette expérience sur la terre en devant renoncer à lui-même pour nous donner un exemple de celui qui, bien qu'étant fils, appris par les choses qu'il a souffertes. Jésus a appris l'obéissance pour nous donner un exemple de comment nous pouvons parvenir au caractère divin, à savoir par le renoncement, ce qui n'est autre que la croix. Et nous voyons cette croix exprimée ici en principe bien distinct, où Jésus disait, dans le début de son agonie, avant même de s'approcher des scènes de la croix du calvaire, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi », autrement dit, il disait, « Seigneur, si seulement je pourrais m'éloigner de cette coupe, ne pas la boire, tout sauf ça, Seigneur, tout sauf ça. » Jésus, devant sa croix, Jésus frémissait d'horreur devant le fait de devoir prendre cette croix. Il disait, « Seigneur, Père, tout sauf ça. Tu peux tout faire ce que tu veux, sauf ça. Ça, c'est presque qu'il avait à dire, ça, je ne veux pas. » Mais il disait ça. Et ensuite, il disait, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et vous avez ici la vision suprême de la croix. Parce que ce qu'il fit après, en montant au calvaire, ce n'est autre que la conséquence et le résultat direct de sa décision prise dans le jardin de Gethsémané de faire non pas sa volonté, mais la volonté du Père, quand bien même la croix impliquait la séparation avec le Père. Pour Jésus, la croix impliquait la séparation d'avec le Père. Pour nous, la croix implique la séparation d'avec la chair. À savoir, Jésus devait renoncer à qui il était, devait renoncer à sa position d'être égal à Dieu, en la forme de Dieu, comme c'est écrit dans Philippiens chapitre 2, verset 5 et jusqu'à verset 8, pour porter le péché du monde, et nous devons renoncer au péché pour porter la justice de Christ. N'est-ce pas triste? Mais quand bien même c'est triste, voilà le privilège qui nous est donné d'être fait et de devenir enfant de Dieu, à savoir si nous voulons bien porter et prendre la croix que Jésus a prise lorsqu'il disait, on le voit aussi encore une fois au verset 42, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe passe loin de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Donc tout dans la nature de Jésus, quand bien même il n'eut jamais commis le péché, tout dans sa nature disait non à cette coupe, mais sa foi et son amour intelligent pour Dieu et pour le pécheur perdu et sans espoir dit, si c'est le seul moyen pour moi d'accomplir la volonté de Dieu, alors je ne prendrai pas ma propre décision, mais je ferai la volonté de Dieu, à l'encontre de tous mes désirs sous-jacents. Et j'aimerais ici lire une déclaration de l'esprit de prophétie qui nous élargit cette vision de la croix. Qui commença avant le calvaire, à savoir dans le jardin de Gethsémané. Je lis. Dans Bible Commentary, volume 5, page 1102 à 1103, où il est écrit. À la pensée du caractère odieux de la culpabilité du monde, Christ sentit qu'il devait s'éloigner et être seul. Les armées des ténèbres étaient là pour donner au péché une apparence aussi vaste, profonde et horrible que possible, par sa haine de Dieu, par sa falsification du caractère de Dieu, par l'irrévérence, le mépris et la haine qu'il manifesta à l'égard des lois de son gouvernement. Satan avait fait monter l'iniquité jusqu'aux cieux et il avait l'intention de grossir l'iniquité à de telles proportions qu'elle rendrait l'expiation impossible, de sorte que le Fils de Dieu, cherchant à sauver un monde perdu, se verrait écrasé sous le poids de la malédiction du péché. Vous voyez ce que le diable fait? Il augmente le péché, non pas simplement pour avilir davantage les pécheurs, mais pour rendre le poids du péché si insupportable que Jésus renoncerait devant l'atroce vision de la croix. Vous comprenez, frères et sœurs, combien c'est indispensable pour nous d'avoir une vision de la croix? Si nous voulons faire, non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu. Je lis. Les efforts de l'ennemi vigilant pour présenter à Christ les vastes proportions de la transgression de la loi lui causèrent une douleur si intense qu'il sentit qu'il ne pouvait rester en la présence immédiate d'aucun être humain. Il ne pouvait supporter que même ses disciples soient témoins de son agonie alors qu'il contemplait le malheur du monde. Même ses amis les plus chers ne pouvaient être à ses côtés. L'épée de la justice était dégainée et la colère de Dieu contre l'iniquité reposait sur le substitut de l'homme, Jésus-Christ, le Fils unique du Père. Dans le jardin de Gethsémané, Christ souffrit à la place de l'homme et la nature humaine du Fils de Dieu chancela sous l'horreur effroyable de la culpabilité du péché, jusqu'à ce que de ses lèvres pâles et frémissantes jaillisse le cri d'agonie. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi !» Mais s'il n'y a aucun autre moyen d'accomplir le salut de l'homme déchu, alors, et elle cite encore, « non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Voilà ce qui était impliqué dans les paroles toutefois. Jésus disait, mais s'il n'y a aucun autre moyen d'accomplir le salut de l'homme déchu, alors non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et pour nous, la vision aussi de la croix implique que lorsque nous considérons ce qui pour nous est gigantesque, mais qui pour Jésus, mais qui comparé à la croix de Jésus est si insignifiant, lorsque nous voyons cette vision de notre croix, c'est aussi ce toutefois implique que nous arrivions à cette conclusion que si nous voulons être sauvés, si nous voulons devenir semblables à Christ, si nous voulons sauver d'autres, alors nous réaliserons qu'il n'y a aucun autre moyen d'accomplir le salut de l'homme déchu, à la fois notre salut et celui des autres, si ce n'est à travers la croix. Si ce n'est en disant, non pas comme je veux, mais comme tu veux. À savoir, si ce n'est en choisissant de faire non pas ce que la chair désire faire, mais ce que l'esprit dicte à notre esprit. À savoir, en marchant selon l'esprit et non selon la chair. Peu importe la force des passions de la chair, voilà ce qui nous est présenté dans l'appel de la croix, l'appel au renoncement. Parce que c'est ça que cela veut dire. La croix et la vision de la croix est un appel au renoncement. De la même manière que Jésus a renoncé à faire sa propre volonté, il a dit, non pas comme je veux. Jésus disait, non pas comme la chair veut. Vous voyez? La chair disait, non, 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 qu'il meure, je ne veux pas porter ça pour eux. La chair dit cela. Et la chair dira aussi ce genre de choses en nous. Mais Jésus a montré l'exemple. Nous a montré l'exemple de ce que cela veut dire de ne pas laisser la chair avoir le dessus sur notre âme. Jésus a dit, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Et de pouvoir répéter ce processus chaque jour. C'est là la difficulté. Et d'où la nécessité d'avoir cette vision de la croix, comme nous allons le voir plus tard, dans nos choix, dans nos décisions quotidiennes. Sans quoi, sans cette vision, nous ne serons pas à même de faire ce que Jésus a fait. Parce que si nous n'avons pas l'exemple de Jésus, nous n'avons que notre propre exemple qui est une histoire et une répétition d'échecs. Comment est-ce que je peux vaincre si le seul exemple que j'ai à l'esprit, c'est le mien ou celui d'autres hommes qui eux-mêmes ont fauté? Et donc, une partie conséquente de la croix, c'est de considérer la vision et les visions de la croix. Et de garder à l'esprit cette vision. Ce n'est pas comme le cinéma où nous allons dans la salle et ensuite nous sortons et ça s'estompe. Ça fonctionne dans le monde parce que de toute manière, il n'y a vraiment rien de très ennoblissant. Ce n'est pas pour sanctifier, c'est pour avilir. Et le diable peut changer de film. Il peut fournir plusieurs séries, plusieurs musiques. Mais pour la croix, c'est la même vision qu'il nous faut garder et qu'elle nous accompagne tout au long de notre marche avec Dieu et de notre vie quotidienne. Sans quoi nous ne pouvons répondre à l'appel au renoncement. Je continue. La nature humaine serait alors morte sous le poids du terrible sentiment du péché si un ange du ciel n'était venu le fortifier pour supporter l'agonie. Je continue dans le livre Parabole de Jésus à la page 165 et au paragraphe 5 où il est écrit le suivant. C'est intéressant ici. Qui peut estimer la valeur d'une âme? Il faut que nous puissions estimer la valeur de notre propre âme pour que les actions, nos propres actes et nos propres décisions soient en harmonie et à la hauteur de la valeur que Dieu a placée sur l'âme et sur notre âme tout particulièrement. Je lis. Qui peut estimer la valeur d'une âme? Si vous désirez la connaître, allez à Gethsémané Et là, veillez avec Christ pendant ces heures d'angoisse, où sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Contemplez le Sauveur sur la croix. Entendez son cri de détresse, de point. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Considérez son front meurtri, son côté et ses pieds percés. Souvenez-vous que Christ a tout risqué. Pour notre rédemption, le ciel même fut mis en péril. Au pied de la croix, vous souvenant que pour un seul pécheur, Jésus aurait donné sa vie, vous pourrez estimer la valeur d'une âme. Au pied de la croix, au pied de la croix, en imagination, en nous souvenant que pour un seul pécheur, Jésus aurait donné sa vie, nous pourrons estimer la valeur d'une âme et tout particulièrement la valeur de notre âme. Parce que à quoi cela sert, frères et sœurs, de connaître la valeur d'une âme, mais si nous n'avons pas appliqué à notre propre âme cette valeur-là que Jésus a placée sur nous par sa décision de faire non pas sa volonté, mais la volonté du Père. Vous désirez connaître la valeur d'une âme, vous désirez estimer cette valeur, allez à Gethsémané et là, veillez avec Christ pendant ces heures d'angoisse. C'est très intéressant, frères et sœurs. Comment est-ce que nous pouvons veiller avec Christ? Christ, il n'y est plus. Il n'y est plus. Il est au ciel. Comment est-ce que je peux veiller avec Christ pendant ces heures d'angoisse en imagination? En imagination, parce que à travers l'esprit, vous et moi, nous pouvons participer à l'expérience que Jésus a faite et être ainsi fortifiés pour répéter cette expérience dans notre propre vie et dans nos propres décisions de chaque jour. Afin de pouvoir faire non pas notre volonté, mais la volonté de Dieu dans toutes choses. Pour que quoi que nous fassions, que nous mangions, que nous buvions, que nous nous revêtions, ou quoi que nous fassions dans notre vie, nous puissions tout faire à la gloire de Dieu. Comment tout faire à la gloire de Dieu? Seulement si j'ai une vision de la croix telle que j'arrive à prendre la décision à chaque moment de faire non pas ma volonté, mais la volonté de Dieu. Sinon, autrement, sans cela, il n'y a rien, frères et sœurs. Il n'y a pas de quoi répéter cette renonciation, ce renoncement. Il n'y a pas sans la vision de la croix. Et j'aimerais ici lire dans Matthieu chapitre 16, verset 24, la suite de ce que nous lisions juste avant. Matthieu chapitre 16, versets 24 à 25. Hein, nous avons vu ce que Jésus avait dit à Pierre lorsque Pierre avait donné cette réponse de rejet à la vision de la croix et à l'appel au renoncement. Et ensuite, après avoir exprimé ces paroles à Satan comme à celui qui s'interposait entre Jésus et son disciple, Jésus continuait au verset 24 de Matthieu chapitre 16, où il disait « Alors Jésus dit à ses disciples » donc il venait de dire à Pierre, ou plutôt à Satan, qui était par l'entremise de Pierre, ces choses-là ici, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas aux choses de Dieu, mais à celles des hommes. » Et ensuite, il s'exprima à ses disciples en lien direct avec cette expérience qu'il venait de faire avec son disciple Pierre. Verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. Verset 25. Car quiconque voudra sauver sa vie la perdra, et quiconque perdra sa vie pour l'amour de moi la trouvera. Verset 26. Car que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, la valeur de l'âme, ou que donnerait l'homme en échange de son âme? Nous venons de voir que pour connaître et estimer la vraie valeur de l'âme, il nous faut aller à Gethsémané et contempler ces scènes d'agonie et veiller avec Christ dans ces moments-là. Et ensuite, Jésus lui disait, que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Vous voyez le lien ici? Et ensuite, il dit, ou que donnerait l'homme en échange de son âme? À savoir, qu'est-ce que l'homme pourra donner pour sa propre âme s'il n'a pas estimé la valeur de l'âme que Jésus a placée sur l'âme par le consentement à la croix? Vous voyez? Pour que moi ou nous placions sur notre propre âme sa juste valeur, il nous faut suivre Jésus dans le chemin et sur le chemin du renoncement et de la croix. Vous voyez le lien ici? Comme c'est marqué au verset 24, « Si quelqu'un veut venir après moi, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et me suive. » Et donc, pour prendre sa croix, il faut renoncer à soi-même, et c'est en renonçant à nous-mêmes que nous pouvons suivre Jésus. Autrement dit, si je suis Jésus mais que je ne renonce pas à moi-même, en réalité, je suis en train de suivre une idée philosophique, mais je ne suis pas disciple de Christ. Vous comprenez, mes frères et sœurs? Jésus disait, après que Pierre ait refusé l'appel à la croix, Jésus a dit, si quelqu'un veut venir après moi, ce que ça veut dire, c'est to follow after me, et le mot followers, c'est synonyme de disciple en anglais. Donc, un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus. Et Jésus disait, si vous voulez venir après moi, à savoir, si vous voulez être mes disciples, il faut que vous renonciez à vous-même. Mais si vous ne vous renoncez pas à vous-même et que vous ne portez pas votre croix pour me suivre, alors vous n'êtes pas mes disciples. Vous voyez une phrase, ça? Mais en contemplant ici que le contexte de la croix, c'est que Jésus la prend le premier. Et que Jésus nous donne une vision de la croix par laquelle nous sommes seuls à même et capables et rendus capables de la prendre et de la porter. Donc Jésus ne disait pas à ses disciples, voilà, vous prenez la croix et ensuite moi je vais la prendre plus tard, un jour. Jésus dit, contemplez la croix que je suis sur le point de prendre, les choses que je suis sur le point de souffrir. Comme cela, quand vous me voyez traverser tout cela et que tout votre monde est en train de s'écrouler sous vos yeux et sous vos pieds, comme ça, vous pourrez être inspiré pour dire, non pas, cela ne t'arrivera point, mais pour dire, Seigneur, cela t'arrive, cela, tu l'avais prédit, tu nous avais annoncé, tu nous avais averti, et maintenant, nous allons te suivre dans la croix. Allons maintenant dans Matthieu chapitre 10, versets 37 à 38, où cela répète un peu ces mêmes pensées que nous venons de voir, mais avec quelques additions. Matthieu chapitre 10, verset 37, « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. » Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Et donc nous voyons que si nous ne prenons pas notre croix, nous ne sommes pas dignes d'être disciples de Christ. Et ensuite, verset 40, parce que nous avons déjà lu le verset 39 dans un autre, c'est la même chose au chapitre 16, verset 40. Écoutez maintenant. Dans ce cheminement de la croix ici, c'est compris dans cela. C'est directement lié à cela. Jésus, quand il parlait de le suivre, d'être digne de lui et de porter notre croix, il disait aussi verset 40 et 41, celui qui vous reçoit, il parlait aux disciples ici. Ses disciples allaient être ses apôtres seraient ses sous-pasteurs, ses sous-bergers. Et ensuite, il disait, celui qui vous reçoit, me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète, et qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Comprenez ici, frères et sœurs, il disait, celui qui vous reçoit, quand il parlait aux disciples, me reçoit. Autrement dit, il disait, celui qui prend sa croix et ne laisse pas être animé par toutes les passions de la chair, mais humilie son cœur pour admettre que le Seigneur est en train d'utiliser l'instrument humain pour sa gloire, celui qui vous reçoit, me reçoit. Jésus disait, celui qui prendra sa croix et qui vous accepte comme les ambassadeurs de Dieu, et qui en vous recevant me reçoit, il est en train de recevoir Dieu. Le Père, celui qui m'a envoyé. Et ensuite, il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Autrement dit, celui qui reçoit celui qui est envoyé de Dieu comme tel, à savoir en qualité de prophète, à savoir dans la qualité dont Dieu l'a investi, il en recevra une récompense. Il en recevra la récompense de la sanctification parce qu'il accepte le moyen que Dieu a ordonné pour le salut des âmes et l'édification de l'Église de Christ. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète, celui qui n'est pas en train de laisser toutes les passions de la chair le submerger, en train de dire « Oh, mais c'est juste un homme, il est imparfait, il est faillible, il a fait ceci et cela. » Jésus, il dit « Celui qui ne me reçoit pas en qualité de prophète, il n'aura pas la récompense. » Pourquoi ? Parce qu'il ne prend pas sa croix. Il n'est pas en train de prendre sa croix. La croix est en train de lui dire de ne pas laisser la chair prendre le dessus, mais la chair a pris le dessus sur son intelligence. Et donc, si nous acceptons ce que Dieu envoie en la qualité de leur fonction aux yeux du ciel, nous sommes en réalité en train de prendre notre croix et nous obtiendrons la récompense qui appartient à tous ceux qui renoncent à eux-mêmes pour faire la volonté de Dieu. Ça fait aussi partie de l'appel au renoncement et à la croix. Maintenant, j'aimerais que nous puissions terminer notre méditation d'aujourd'hui par les paroles suivantes de l'esprit de prophétie, où nous lisons au sujet de personnes qui sont distraites par les divertissements de ce monde. Et ne sommes-nous pas aujourd'hui, frères et sœurs, dans ces moments si chargés de distraction et de divertissement? Et la déclaration suivante, elle met en contraste les divertissements variés, nombreux et sans fin du monde à la croix que Jésus a choisi pour nous de porter. Et considérez ici que cela a été écrit au temps de Sir White, et si au temps de Sir White c'était déjà vrai, avec le peu de distraction qu'ils avaient en leur temps, comparé à celle que nous avons de nos temps, alors à combien plus forte raison ces paroles s'appliquent aujourd'hui? Je lis. Dans le livre That I May Know Him, à la page 311, paragraphe 2 et 3. Un vrai chrétien, un vrai disciple, un vrai chrétien se gardera d'entrer dans un lieu d'amusement quelconque ou de se livrer à un divertissement sur lequel il ne puisse demander la bénédiction de Dieu. Il se garderait dans un lieu d'amusement quelconque ou de se livrer à un divertissement sur lequel il ne puisse demander la bénédiction de Dieu. Quelque lieu ou quelque divertissement que ce soit. On ne le verra ni au théâtre, ni au billard, ni au jeu de boules. Ça, c'était en son temps. Le théâtre, le billard, le jeu de boules. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Le cinéma, les bars, les restaurants, l'Internet, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc., etc. Je n'en passe des meilleurs, frères et sœurs. Hey. En son temps, il n'y avait presque rien comparé à notre temps. Jésus disait, le vrai chrétien, on ne le verra ni au théâtre, ni au billard, ni au jeu de boules. À savoir, tout divertissement sur lequel il ne puisse demander la bénédiction de Dieu. Il ne participera pas aux valses joyeuses ni aux plaisirs ensorceleurs qui chasseraient Christ de son esprit. Donc, toutes ces choses sur lesquelles il ne peut pas venir et dire, voilà Seigneur, bénis-le s'il te plaît. Bénis tout lieu ou toute distraction sur lequel il ne peut pas s'arrêter avec un esprit totalement consciencieux et dire, Seigneur, voilà, je m'ouvre à toi, regarde s'il te plaît, bénis ce moment. Toute chose où nous ne pouvons pas faire cela, c'est la chose et le lieu nous ne devrions pas être et là où on ne devrait pas nous trouver. Mais pourquoi? Parce que maintenant le contraste. À ceux qui prennent la défense de ces divertissements, nous disons, nous ne pouvons nous y livrer au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux me livrer à cela au nom de Jésus de Nazareth? Hein, frères et sœurs? Hein? Est-ce que cette chose que je regarde ou que j'écoute, est-ce que je peux m'arrêter et dire au nom de Jésus de Nazareth, je me livre à cela? Si je ne peux pas, alors ce devrait être les choses dont je m'abstiens. Pourquoi? Voilà, je lis. aller en imagination à Gethsémané et contempler l'angoisse que Christ a endurée pour nous. Voyez le Rédempteur du monde luttant dans une agonie surhumaine, les péchés du monde entier pesant sur son âme. Entendez sa prière, portée par la brise compatissante de point. Ô mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. L'heure des ténèbres est arrivée, Christ est entré dans l'ombre de sa croix. Seul il doit boire la coupe amère. De tous les enfants de la terre qu'il a bénis et réconfortés, il n'y en a pas un seul pour le consoler en cette heure terrible. Il est trahi entre les mains d'une foule meurtrière. Faible et fatigué, il est traîné d'un tribunal à l'autre. Celui qui n'a pas connu la moindre tache de péché déverse sa vie comme malfaiteur sur le calvaire. Cette histoire devrait toucher chaque âme au plus profond d'elle-même. C'est pour nous sauver que le Fils de Dieu est devenu un homme de douleur et a connu la souffrance. Que le sens du sacrifice infini consenti pour notre rédemption vous accompagne toujours et la salle de bal perdra son attrait. La salle de bal. Et donc, frères et sœurs, aujourd'hui, quand bien même nous n'avons pas vraiment d'attrait pour la salle de bal, certainement, il y a bien d'autres choses qui ont attiré nos affections. Mais si le sens du sacrifice infini que Dieu a consenti pour notre rédemption nous accompagne, alors toutes ces choses-là qui ont constitué une distraction pour nous, elles perdront leur attrait. Quand ce sens, cette réalisation du sacrifice de Jésus et de la croix qu'il a consenti à prendre nous accompagne. C'est ma prière, frères et sœurs, que cette méditation ne soit pas juste un petit moment isolé de méditation de la parole de Dieu qu'on oublie, mais que l'on puisse considérer ce que Jésus a consenti à faire et que nous puissions aller en imagination à Gethsémané et contempler l'angoisse que Christ a endurée pour nous. L'angoisse que Christ a endurée parce qu'il avait mis une telle valeur sur notre âme. C'est ma prière. Que le Seigneur vous bénisse et nous éclaire et renferme et fortifie et solidifie cette vision dans nos cœurs de la croix. Amen.